Bonjour à tous à nouveau et on est dans une série sur les paraboles de Jésus. Paraboles, c'est des messages visibles, faciles à capter. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la lecture d'une parabole en Luc chapitre 20, le verset 1 à 19. Luc chapitre 20, versets 1 à 19, c'est la parabole dite des méchants vignerons. C'est une parabole autour de la personne de Jésus-Christ. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. « Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je ? » J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne. Et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise !» Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce que tu l'as laissée pour notre compréhension, Seigneur, de ton évangile, de ton œuvre, pour travailler nos cœurs, pour nous amener à te connaître comme notre sauveur personnel. Et on veut te prier pour qu'elle soit encore agissante ce matin au fond des cœurs. Tout cela pour la gloire de ton nom. Amen. Jésus est dans le temple. Ça fait déjà 3 ans qu'il a fait son ministère et c'est au fond son dernier jour de ministère public. Après cela, il va être arrêté, condamné, crucifié, mis au tombeau. Et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Et donc, c'est son dernier jour, et il est encore dans le temple, et il enseigne. Et le verset 1 nous dit ce qu'il enseigne. Il enseigne la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il enseigne l'évangile. L'évangile, son évangile. Il est en train de montrer la gravité du péché. Il est en train de parler des conséquences désastreuses et éternelles du péché. Comment les hommes sont esclaves. Comment ils sont incapables de se transformer par eux-mêmes. Il montre que les efforts des hommes sont vains. Que leurs prières, leurs rites religieux ne peuvent effacer leurs fautes. Il montre que on ne n'est pas enfant de Dieu, mais qu'on le devient par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas un chrétien parce que nos parents sont chrétiens. mais on devient chrétien par une repentance sincère, reconnaître notre état de pécheur et notre besoin de Christ, et plaçant notre confiance dans son œuvre à la croix, il efface, pardonne, lave nos cœurs tout entiers. Il montre que l'amour de Dieu pour les pécheurs se manifeste en lui, le Fils bien-aimé du Père, qui s'incarne pour payer le prix de nos fautes, venant à Jérusalem pour cela, pour effacer nos transgressions. Il est l'agneau qui vient pour mourir. Il est l'agneau pascal, c'est la semaine de Pâques à ce moment-là. Il appelle le peuple à se repentir et à croire en lui. Certains ont cru. D'autres, malgré les évidences, ont refusé de croire. Je ne dis pas ils n'ont pas cru. J'ai dit ils ont refusé de croire. Et c'est ce que l'évangile de Jean dit aussi. Ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Celui qui refuse de croire n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Rejeter Christ, c'est le choix le plus tragique que quelqu'un puisse faire. C'est se condamner soi-même. Et regardons pourquoi. Tout d'abord parce que rejeter Christ, c'est nier l'évidence. C'est aussi léser Dieu, notre Créateur. Et puis enfin, c'est mépriser le juge lui-même. Regardons d'abord nier, c'est nier l'évidence. Jésus vient de se faire son entrée triomphale dans Jérusalem, sous les acclamations de la foule. Il est monté sur un ânon, le petit lionnet, exactement comme l'a prophétisé Zacharie le prophète 400 ans plus tôt en parlant du Messie. Il le célèbre de tout leur cœur, regardez ça au chapitre 19, verset 37, à cause, il est dit ici, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Vous vous rendez compte? Ils le louent parce que ils ont vu Jésus faire tellement de miracles et maintenant il arrive, il est véritablement le Messie pour eux. Et il crie au verset 38, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Ça, c'est l'acclamation pour le Messie. Puis, il entre dans le temple, il chasse les vendeurs qui avaient fait du parvis des païens un centre commercial. Chapitre 19, versets 45 et 46, il entra dans le temple, se mit à chasser ceux qui y vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est terrible. Au début du ministère de Jésus, il a déjà chassé les vendeurs du temple. Et quand il l'a fait, les chefs religieux lui disent, quel miracle fais-tu pour chasser les vendeurs du temple. Sous-entendu, si tu te prends pour le Messie doit faire des miracles. Alors, quel miracle fais-tu? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps, qui est le miracle de sa résurrection, qui est l'un des plus, le couronnement, si on peut dire, de son œuvre, de ses miracles. Et puis, 3 ans de ministère se poursuivent. Et pendant ces 3 ans, il accomplit tout un tas de miracles. Et là, à la fin de ces 3 ans, ils lui disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Comment peuvent-ils encore poser la question? L'évidence est là! Et pourtant, ils posent encore la question. Jésus a montré son autorité sur les démons. Il a chassé les démons, chapitre 4, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 11 du même évangile de Luc. Il a montré son autorité sur la maladie. Il a guéri, chapitre 5, un lépreux, chapitre 5 encore, un paralytique, chapitre 7, le serviteur du centenier qui était prêt de mourir, chapitre 8, il a guéri une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, chapitre 13, il a guéri une femme qui était possédée et qui était courbée depuis 18 ans. Chapitre 17, il a guéri 10 lépreux d'un coup et il leur a dit, allez vous présenter aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs ont vu, les mêmes qui l'interrogent aujourd'hui, ils ont vu ces 10 lépreux venir en disant, on s'est approché de Jésus, on a dit, aie pitié de nous, fils de David, c'est-à-dire le Messie, et il nous a guéris, et il nous a demandé de venir vers vous pour que vous attestiez que nous sommes guéris. Jésus a démontré sa puissance, il a démontré son autorité sur la maladie. Et puis il a démontré son autorité sur la mort même. Chapitre 7, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Chapitre 8, il a ressuscité la fille de Jairus, qui est le chef de la synagogue, sans aucun doute. Tous ces religieux qui sont là en train d'accuser Jésus, de le questionner, ils ont appris que la fille du chef de la synagogue avait été miraculeusement ressuscitée. Quelques jours plus tôt encore, il a ressuscité son ami Lazare, dont le corps était déjà en décomposition et qui sentait. Juste à quelques mètres, à quelques kilomètres du temple. Jésus a démontré son autorité sur les éléments. Et un jour, il a calmé la mer juste par une parole. Et le vent a cessé simplement par une parole. Un autre jour, il a multiplié pour 5000 personnes, 5000 hommes, peut-être 20000 personnes, de quoi manger du pain et des poissons. Et il y avait encore des restes. Jésus a montré son autorité. Il a montré son autorité sur le pardon des péchés. Un jour, il a dit à quelqu'un, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors on lui a dit, « Mais pour qui tu te prends pour Dieu ?» Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et puis il a dit, « Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés ?» Ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, lui-même, a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi. Rentre chez toi. Mes amis, c'est l'évidence. Il n'y a aucun mérite à croire. Parce que c'est croire l'évidence. Après avoir chassé, chassé les vendeurs, il s'installe dans le temple et puis il enseigne. Mais les hommes sont frappés par son enseignement. Il dit, mais il n'enseigne pas comme les autres, lui. Il n'enseigne pas comme les rabbins. Les rabbins, quand ils enseignent, ils disent comme moi, ils disent, moi, j'ai lu dans Tim Keller, ou Don Carson a dit, ou le pasteur Samuel a dit, alors là, tout de suite, ça, il y a de l'autorité, quoi. Mais Jésus, il cite pas Carson ni Keller. Jésus, il a sa propre autorité. Quand il parle, Ça pénètre les cœurs. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et il est dit dans notre passage, dans le chapitre 19, verset 48, il dit que le peuple l'écoutait avec admiration. Et pour les chefs religieux de l'époque, c'est insupportable, vous imaginez. Ils viennent écouter. Ça fait des années qu'ils écoutent ces rabbins, etc. Et ils les trouvent un peu confus, un peu compliqués, etc. Puis quand ils entendent Jésus, ils l'écoutent avec admiration. Ils ont l'impression de comprendre ce qu'il dit. L'assurance que ça parle, touche leur cœur. Pour les chefs religieux, c'est insupportable. Et du coup, ils cherchent à le faire périr. En fait, ce qui est terrible pour eux, c'est que Jésus, il agit en tant que propriétaire des lieux. Et non comme eux qui seraient les intendants. Il ignore totalement l'autorité du Sanhédrin. Il ignore totalement l'autorité des sacrificateurs, des rabbins, des scribes, des gardes du temple. Il est chez lui. Il dit « ma maison ». Alors quand la délégation des chefs d'Israël lui pose la question « par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Jésus, et ça c'est une manière juive aussi de faire, il répond par une autre question. Mais il ne cherche pas à éviter la question. Mais il donne une autre question pour démasquer leur hypocrisie. Ils savent d'où vient son autorité. Il l'a affirmé à maintes et à maintes reprises. Eux, ils veulent se débarrasser de lui en le poussant à proclamer son autorité divine pour pouvoir l'accuser de blasphème. Et c'est ce qu'ils feront. Et Jésus les coince par sa question au verset 4. Ils ne peuvent pas nier l'évidence. Je ne sais pas où vous en êtes chacun dans vos réflexions au sujet de la personne de Jésus. Mais je peux vous dire que vous ne pouvez pas lire les évangiles et poser cette même question sans faire l'aveu de votre hypocrisie, de votre endurcissement. La Bible ne nous laisse pas dans l'ambiguïté au sujet de l'identité de Jésus. Jésus n'est pas simplement un prophète. Jésus n'est pas un super rabbin du premier siècle. Parce que dans ce cas-là, il n'a aucun pouvoir dans ma vie aujourd'hui. Jésus est Dieu. Parce que Dieu seul peut créer du pain et des poissons à partir de rien. Parce que Dieu seul a autorité sur le vent et sur la mer. Dieu seul peut faire voir un aveugle de naissance ou faire marcher et sauter instantanément un homme paralysé depuis 38 ans. Dieu seul peut ressusciter un mort. Alors, ne voulant pas répondre que Jean-Baptiste venait de Dieu puisqu'il ne l'avait pas suivi, ils disent qu'ils ne savent pas. Et Jésus, vous avez remarqué, il répond « Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. » Sous-entendu, ce n'est pas que vous ne savez pas, c'est que ça vous arracherait la langue de proclamer que je suis votre Messie, votre Dieu, votre Créateur. Jésus leur a donné depuis 3 ans suffisamment de preuves qu'il était le Messie. À quoi bon faire encore un miracle? Cela augmenterait encore leur culpabilité. Ils ne veulent pas de lumière. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. 2 jours plus tard, ces mêmes hommes demandent à Jésus, lors d'un simulacre de procès, au chapitre 22, versets 67 et 69, ils lui demandent « Si tu es le Christ, dis-le-nous » Et Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Et je pense qu'il fait directement référence à la question qu'il a posée. Est-ce que Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste, ça vient de Dieu ou pas? Je ne sais pas. Il vous reste plus qu'à être jugé. Nous devons faire attention à la manière dont nous écoutons ou lisons la Bible. Parce que nous risquerions de nier l'évidence. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est qu'on risque de léser Dieu, ne pas croire en Dieu. C'est léser notre Dieu, notre Créateur. Si Jésus est celui qu'il prétend être, et celui qu'il a démontré qu'il était, alors son autorité sur nos vies n'est pas discutable, n'est pas négociable. Le chrétien, il est celui qui a reconnu la véritable identité de Jésus et qui accepte entièrement la seigneurie sur sa vie. Pour cette parabole, Jésus il utilise encore une image qui est bien connue par toute la population. C'est l'histoire d'un homme qui plante une vigne et puis il prépare tout pour que la vigne porte d'abondants fruits. Et puis il la confie à des vignerons et puis il s'en va. C'était très habituel de faire comme cela. C'est un système de location finalement. Les vignerons ils exploitent la vigne et puis ils remettent au maître un loyer tous les ans. Et le loyer c'est simplement un pourcentage au fond de la récolte. Et parfois les paraboles sont un peu compliquées et le sens est un peu caché. Mais ici tout le monde comprend bien. Hein, vous avez remarqué au chapitre 20, verset 19, il est dit, deuxième partie, « Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. » Et donc, l'évidence, c'est que la vigne, c'est de Dieu, c'est Israël. le peuple de Dieu, les vignerons auxquels il confie la vigne, et bien sûr les chefs d'Israël, les religieux tout particulièrement, et puis les serviteurs, ce sont les prophètes qui sont envoyés par Dieu pour appeler le peuple à la repentance, et puis le Fils bien-aimé, bien entendu, c'est Jésus lui-même. Jusque-là, au fond, tout est normal. Mais voilà ce qui arrive. Au moment de la récolte, le propriétaire envoie un serviteur pour percevoir son contenu, le revenu de la récolte, le revenu du maître. Il le bâtir et le renvoyer à vide. Il envoie un deuxième, un troisième serviteur, et il réserve le même sort à ces deux hommes. Les auditeurs, ils doivent être scandalisés. Dis, mais c'est pas incroyable, c'est qui ces gars? Et là, le maître de la vigne dit, verset 13, que ferai-je? La réponse, elle est évidente. Mais tu vas aller les massacrer. Ils se prennent pour... Ils font aucun cas de toi. Tu les as avertis. Ils ont signé un accord avec toi. Ils ne le respectent pas. Tu les as avertis une fois, deux fois, trois fois. Ils ont méprisé tes avertissements. Ils ont même maltraité ceux que tu leur as envoyés. Tu vas les massacrer. Mais la réponse de Jésus n'est pas celle-là. Au lieu de se venger, il envoie son fils bien-aimé. Et voilà ce qu'ils en font. Ils complotent contre lui pour le faire mourir. Et ils se disent, si on fait mourir l'héritier, alors la vigne est à nous. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Trois jours plus tard, ils vont l'arrêter, le condamner, le crucifier, tout cela, hors de la ville. Les auditeurs, ils doivent être abasourdis à ce moment-là. Comment est-ce possible? Y a-t-il un plus grand affront que celui-là? Et Jésus conclut son histoire, maintenant, que fera le maître? Oh, là, la réponse est évidente, et il la donne lui-même, ici, dans Luc. Il fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. La réponse est juste, elle est appropriée. Si nous faisons une petite application à nos propres vies, la vigne, c'est notre vie. La vigne, la vie qu'il nous accorde, au fond. Les vignerons, c'est nous. C'est nous qui gérons nos vies. Les serviteurs que Dieu envoie, mais c'est le témoignage de la création qui nous parle d'un créateur. C'est le témoignage de notre propre conscience qui atteste que nous sommes des pécheurs. C'est aussi le témoignage des chrétiens. On a entendu le témoignage de Vincent et Laetitia, là, aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans leur vie. Comment il les a transformés. Comment il leur a pardonné. Et en entendant cela, chacun d'entre nous devient responsable. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis surtout, le serviteur, c'est la parole de Dieu elle-même. L'évangile qui nous est annoncé, qu'on peut lire, la parole qui est infaillible. Maintenant, quel est le revenu que Dieu attend de nous? Dieu attend un revenu. S'il est véritablement le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître de nos vies, il attend l'honneur, il attend la gloire pour son nom, il attend l'obéissance, il attend la reconnaissance pour la vie, il attend la reconnaissance pour la famille qu'il nous a donnée, la famille dans la chair, mais la famille aussi dans la foi. Il attend notre reconnaissance pour la multitude de ses bienfaits. Il attend la reconnaissance pour le salut. Il attend le respect pour sa personne, une certaine crainte pour son nom. Il attend que nous ne fassions pas comme s'il n'existait pas, comme si nous n'avions pas un contrat avec lui. Alors l'avons-nous rendu? C'est ça la question. Avons-nous rendu à Dieu ce que nous lui devons? L'honneur, la gloire, la reconnaissance, l'obéissance. Ça n'est pas facultatif, en fait. Si vous ne rendez pas l'honneur, la gloire à votre Créateur, si vous n'avez pas de reconnaissance envers Dieu, si vous n'avez pas de respect et le désir de lui obéir, c'est que vous n'avez pas reconnu qui il est. Vous pensez vous être fait tout seul. Vous imaginez que vous n'avez de compte à rendre à personne. Notre Dieu, il est infiniment bon, infiniment sage, infiniment saint, juste, puissant. Lui obéir, au fond, c'est le glorifier. C'est précisément lui reconnaître tous ses attributs. L'avez-vous fait? Que méritent ceux qui ne reconnaissent pas et ne lui apportent pas ce que nous lui devons? Mais qui méprisent, au fond, le témoignage de la création, de leur conscience, de la Bible? Que mérite-t-il? Que ferais-je à ces hommes? Et regardez la réponse. Il envoya son fils. Il envoie Jésus, son fils. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Mais il envoie son fils bien-aimé, espérant que nous reconnaîtrons en lui notre Dieu. Que nous admettrons sa dignité. Les lettres de créance de Jésus, ce sont ses miracles. La multitude de ses miracles, c'est la sagesse de ses paroles. C'est l'œuvre magnifique de la croix et de la résurrection. Il souhaite que nous reconnaissions ses bons soins, sa bienveillance infinie, les soins que Jésus porte aux pauvres, aux affamés, aux veuves, aux malades, aux affligés et aux pécheurs. Aucun de nous n'a vécu la vie que nous aurions dû vivre, et aucun de nous ne peut dire qu'il aime Dieu et le sert comme nous devrions le faire. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nul d'entre nous le fait. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Lui, il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre, et il a connu la mort que nous aurions dû connaître. Aurons-nous du respect et obéirons-nous et rendrons-nous les fruits attendus en plaçant notre confiance en Jésus-Christ? Les fruits attendus, c'est des vies transformées. C'est ce que vous avez entendu ce matin. C'est le témoignage. Jésus est mon sauveur. Il est le rocher sur lequel ma vie repose. Il est le Tout-Puissant qui peut y mettre un terme à chaque instant comme il veut. Mais si nous nous prenons pour des maîtres, si nous rejetons l'œuvre de la croix et méprisons le don de son Fils, que fera-t-il? Et ça, c'est notre troisième point. C'est mépriser, au fond, ça serait mépriser le juge. Que méritent ces personnes? Regardez le verset 15, il dit, « Et maintenant, que leur fera le maître de la vigne ?» Et Jésus dit, il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. C'est Jésus lui-même qui donne la réponse pour qu'on sache avec assurance. Voilà la bonne réponse. C'est comme ça que ça va se passer. Et si vous avez remarqué, il a déjà annoncé qu'il allait être crucifié, qu'il allait être rejeté en dehors de la ville. Alors quand il dit, voilà le jugement qui va nous atteindre, s'il a eu juste jusqu'à présent, on devrait trembler à l'idée d'être qu'il est juste avec ce jugement qu'il annonce. Avez-vous remarqué leur réponse? Ils disent « Oh, à Dieu ne plaise !»« À Dieu ne plaise !» Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de jugement. D'autres traductions ont traduit « Oh, pas question !» Ou d'autres traduisent encore « Jamais de la vie !» Et combien diraient la même chose aujourd'hui? Un jugement? Bon. Non, la colère de Dieu, mais non, jamais, Dieu pardonne tout, il pardonne tout et à tout le monde. Vous croyez ça? Et maintenant, considérez la réponse de Jésus, verset 17. Il est dit, mais jetant les regards sur eux, littéralement, il les a dévisagés. Il leur a dit, regardez-moi bien dans les yeux et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Et il cite un passage bien connu de tous. Verset 17. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Si vous voulez construire sans Jésus-Christ, sans la pierre, sans le rocher, si vous refusez de placer Christ comme la fondation pour votre vie, soit vous tomberez sur cette pierre, soit cette pierre tombera sur vous. Le résultat, c'est que vous serez écrasé. Imaginez la scène maintenant. Vous n'avez pas payé votre loyer, le loyer de votre logement à votre propriétaire. Depuis déjà plusieurs mois. Alors, il vous a envoyé plusieurs rappels dont vous n'avez tenu aucun compte. Alors, il a envoyé des amis pour essayer de résoudre le problème à l'amiable, mais sans succès. Vous avez rejeté ses amis. Il se rend bien compte que vous avez de quoi payer, mais que délibérément, vous ne voulez pas reconnaître en lui votre propriétaire. Alors, il envoie son fils. Et son fils vous dit, écoute, ça fait maintenant un an que vous n'avez pas payé votre loyer. Ok, je vous fais grâce pour tous ces loyers impayés, c'est moi qui les paye. Par contre maintenant, à partir d'aujourd'hui, juste payez votre loyer à Dieu. Donnez-lui la reconnaissance. Donnez-lui l'affection, le service, la louange, la reconnaissance pour son fils. Vous méprisez le fils. Vous ne tenez aucun compte de sa faveur. Vous le jetez, le tuez. Alors forcément, vous êtes convoqué au tribunal. Les faits sont rappelés. Vous n'avez aucun mot à dire, puisque ce sont juste les faits. Vous êtes obligé de reconnaître, oui, c'est vrai, j'ai pas payé. J'aurais pu payer, mais je veux pas le payer. Et là entre le juge. C'est votre propriétaire. Que va-t-il faire ? Il est le propriétaire de votre vie, de votre... Et il est aussi le juge. Il vous condamnera, c'est certain. Le jugement va en effet tomber sur Israël. 40 ans plus tard, Israël va être envoyé en déportation. Le temple, la ville va être rasée par Titus en l'an 70. Et la vigne va être confiée à d'autres. Oh, c'est vrai qu'on ne peut pas crucifier Jésus-Christ aujourd'hui comme les Juifs l'ont fait. Mais quand même, quand il vient à nous, au moyen de sa parole, au moyen de ses paraboles, sa parole prêchée ou lue, entendue, écoutée, et qu'il réclame notre cœur pour Dieu, et qu'on le chasse en disant « Oh, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Nous agissons comme des méchants vignerons. Quand on se croit pas si mal, au fond, comme Laetitia l'avait bien montré tout à l'heure, et qu'on ne pense pas devoir quoi que ce soit à Dieu, quand on s'obstine à établir notre propre justice, par nos bonnes œuvres, par notre religiosité, ou par nos souffrances, ou nos performances, et que nous refusons sa justice à lui, celle qui nous est offerte par la foi dans le sacrifice de Christ, alors nous tenons pour rien l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'on préfère faire que croire, parce que croire nous enlève tout mérite, alors nous agissons comme des méchants vignerons. Quand on le reconnaît comme Seigneur, avec les mots, « Ah oui, Jésus est Seigneur, alléluia !» Mais que tout dans ma vie dit le contraire. Quand je dis « Oui, il est Seigneur », mais que toute ma vie dit qu'il n'est pas mon Seigneur, que sa volonté ne me préoccupe pas. Vous savez, il y a une grande différence entre connaître une vérité, comme si, bon, j'en ai été informé, j'ai entendu ça tout petit. Bon, je suis pas une famille chrétienne, j'ai entendu ça tout petit. Jésus, il est Seigneur, j'ai répété ça 10 fois ou 100 fois dans l'enseignement des classes d'enfants. Il y a une différence entre savoir cette vérité-là, l'avoir entendue, et puis la croire. La croire, c'est accepter les implications de cette vérité dans ma vie. Si Jésus a payé à la croix pour mes fautes, s'il a fait de mon corps le temple du Saint-Esprit, s'il m'a racheté par son sang précieux, alors je ne m'appartiens plus à moi-même. Alors je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu veut. Je suis dépendant de lui, je suis tenu de le suivre. Paul dira, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si c'est le cas, si vous avez été racheté. Mais maintenant, que fera le maître? La colère de Dieu tombera sur ceux qui le méprisent. Personne ne peut mépriser Dieu indéfiniment sans provoquer sa colère. Si Dieu use de patience envers les hommes rebelles qui rejettent son Fils, cette patience prendra fin. Cette patience prendra fin. C'est certain. Un jour ou l'autre, elle prendra fin. Et on sera confronté à notre juge. Je termine avec ces deux pensées. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette parabole encore? Première chose, c'est que nous sommes redevables à Dieu pour tous les privilèges dont nous jouissons. Ces privilèges nous rendent responsables de l'aimer et de le servir. Dieu veut que nous ayons un cœur reconnaissant. La marque, le fait que je suis un croyant, c'est que je reconnais la souveraineté, la seigneurie de Dieu dans ma vie. Je reconnais, c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Et de coup, je lui exprime ma reconnaissance. Ce soir, on a un moment de, un concert de louanges qu'on veut faire. Mais on fait ça parce qu'on veut dire, Seigneur, tu nous as tellement aimés. Nos vies sont entre tes mains tout entières. On dépend entièrement de toi. Un mot de ta part, on cesse d'exister. Et tu nous as fait grâce à nous, des pécheurs, d'être appelés tes enfants, de venir éternellement dans ta présence. On veut le dire. Mais pas simplement le dire avec nos mots, on veut aussi le vivre, le traduire dans nos vies qui ressemblent un peu plus à Jésus-Christ, qui portent son parfum, le goût, le désir de le suivre. Oh, on chutera encore. Mais on est redevable de mener une vie qui l'honore, qui le glorifie. La deuxième pensée, c'est que nous sommes responsables de la manière dont nous considérons Jésus-Christ. Jésus, il est le plus grand don qui ait été fait. Vous avez peut-être déjà vécu jusqu'à présent en abusant, au fond, de toutes ses bontés. Peut-être aujourd'hui, vous dites, mais moi, j'ai entendu ça depuis tout petit, mais j'ai jamais pris conscience de ça. Que je devais remercier Dieu, que je devais vivre d'une manière qui l'honore parce qu'il est mon Créateur. Et j'ai vécu et j'ai mal agi et j'ai vécu sans tenir compte de ces vérités-là jusqu'à présent. Jésus est venu précisément pour pardonner notre vie endurcie. Notre vie où, pendant si longtemps, on a méprisé notre Créateur, nier l'évidence, léser Dieu de sa gloire en essayant de la prendre pour nous-mêmes. mais il est pour nous pardonner. Si maintenant nous nous repentons de nos péchés, si nous nous tournons vers lui, il pardonnera nos transgressions. Il pardonnera entièrement. Il ne se souviendra plus de nos fautes. Alors on est responsable quand même de cela. De tourner nos regards vers celui qui a été percé pour nous. Alors, Dieu changera sa colère, ou détournera sa colère qui nous menace sur Jésus lui-même. Et nous deviendrons ses enfants. Notre désir de lui appartenir, de vivre pour lui, pour l'éternité. Alors ça, c'est possible encore aujourd'hui. Et on veut prier encore, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Cette parole que tu donnes dans le dernier jour de ton ministère public. Seigneur, tu veux avertir, Seigneur, tout le peuple de ne pas nier l'évidence de qui tu es. Tu es Dieu et tu en as fait la démonstration. Et puis, de ne pas léser Dieu par notre ingratitude à l'égard de la vie que tu nous donnes. Et plus encore à l'égard de l'œuvre de la croix que tu as accomplie pour notre rachat. Seigneur, on te prie pour que personne ne méprise son juge, le juge devant lequel il se tiendra un jour ou l'autre. Et Seigneur, on prie pour que chacun puisse être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Je prie pour que s'il y a des cœurs ce matin qui n'ont jamais fait la paix avec Christ, puissent lui demander pardon à l'instant même. Vous pouvez lui dire cela. Donne-moi. Et viens prendre ma vie. Merci de t'être offert en sacrifice pour toutes mes fautes. Merci de changer mon cœur, de mettre d'abondantes louanges, de la reconnaissance, une vie transformée à ta ressemblance, une vie qui va glorifier ton Saint-Nom, qui vit plus pour elle-même, mais qui vit pour glorifier Jésus-Christ le Sauveur. Merci Seigneur notre Dieu de ce que tu nous avertis pour nous affranchir, pour nous libérer de nous-mêmes et nous rendre et faire de nous tes enfants. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.